bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boutadi.
Bonjour à tous.
Guillaume Bouguet.
Absolument.
Daniel Morin.
Bonjour.
Oh, bah bien. Tom Vidal.
Salut.
Parfait. Tout à l'heure, Tanguy Bassureau et nos invités sont Julie Depardieu et Thomas Bénébert.
Ouais. Ouais. Julie. Ouais.
Alors déjà, on va commencer. Quoi, il y a... Où il est où le problème? Il
non
est où
problème,
le problème?
Okay, nos problèmes.
Nos problèmes. On va déjà souligner deux choses. La première, c'est que vous venez couronner de 4 millions de téléspectateurs pour hier soir.
Ouais.
Déjà, ça.
Ouais, c'est joli.
Déjà, ça m'énerve parce que j'étais en face et que j'en ai fait moins de 3.
Désolé.
Donc...
Ah ouais, c'est vrai, c'est
mais toi. Ouais, pff, c'est pas grave. C'est
il avait su, vous n'aurez pas invité. Hein.
C'est... Bah ouais, je sais. Mais moi, ma télé, elle était cassée, j'ai même pas pu regarder. Pas de télécommande.
Moi non plus, je l'ai pas regardé parce que j'étais pas au courant que ça passait hier.
Bah,
en
moi,
fait,
bah,
ouais. On me l'a dit dans l'ascenseur.
Ah, d'accord.
On m'a dit Thomas... 4 millions, je dis yes, mais j'étais pas dans l'épisode.
Non, t'es dans le prochain.
Et toi, tu y es pour rien, t'es dans le prochain.
Je suis dans le prochain. On a fait 800 000 pour le prochain.
Non, c'est un énorme succès qu'Alexandra L, qui a été créée et écrite cette série par Elsa Marpeau, qui avait également créé Capitaine Marlowe. Ça va, elle a plutôt
oui.
une bonne plume, cette dame.
Bien sûr.
Plutôt une bonne plume. On va parler évidemment de cette série, mais d'abord des questions concernant Thomas VDB et Julie Depardieu. On va commencer par Julie. Qu'a-t-elle fait en écoutant la septième symphonie de Beethoven?
Un malaise.
Elle a fait
pleurer.
Un truc particulier. Non.
Elle a rigolé.
Elle... Ah, peut-être.
Elle s'est roulée par terre.
Non.
Elle a décidé
non, Thomas,
de changer
tu ne dis rien.
C'est quelque chose de physique.
C'est quelque chose de physique, oui.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Elle s'est déshabillée.
C'est déshabillée, ouais. Ouais.
Elle est... Alors, elle n'était pas très habillée non plus. Ouais. Sur la cinquième symphonie de Beethoven.
Bon, physique, elle a fait un bébé, je sais pas.
Exactement.
Ah oui.
Bah, pas du tout.
C'est vrai? C'était la cinquième.
J'ai
c'est
accouché
con.
Sur la troisième ah. mouvement de la septième.
Eh ben, c'est ce que j'ai dit.
Bah non. Ah bon, vous avez dit ça?
Bah, c'est quoi la différence entre faire un bébé et accoucher?
Bah ouais, non, mais faire un bébé, c'était pas du tout pareil.
Ah, ah, ouais.
J'ai pas fait le bébé sur la septième.
Non,
j'ai accouché.
Voilà, vous avez accouché sur la septième.
Ouais.
Trop la casse. Et d'ailleurs, on n'a pas l'extrait. c'est quel mouvement
on a la
c'est
vidéo.
Le troisième, le très presto, le très mignon. C'est un enfant très presto aussi. Tu vois, je.
Mais vous aviez calé ça, c'est-à-dire vous avez dit.
Non, mais je m'emmerdais quand t'accouches, qu'est-ce que tu fais? T'attends.
Moi, je sais pas, je sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas.
T'as maintenant qu'il y a des téléphones qui font tout, écoute des truc et que j'avais mon poste de radio chérie.
C'est vrai que vous allez toujours avec
toujours,
ce poste de radio.
Ouais, voilà, oui.
Toujours.
Donc j'écoutais ça.
Très bien. Mais vous aviez prévu. Non, mais au-delà de la paix, ça aurait pu tomber sur Bruce Springsteen, c'est
Nagui.
Ça ma question. Quoi
non, ça, jamais.
Moi, vous avez tort, c'est bien Springsteen.
Ouais,
Thomas, dis-lui, explique-lui
moi.
À la dame.
C'est bien, bah oui, mais accoucher sur Springsteen, c'est
non,
chelou.
Ça m'aurait fait
Born
ouais.
Born to Run.
Ça fait du bruit.
Non, et Born to Run, ça doit.
Born to Run.
Et l'autre, il est né sur un sublimaire de Verdi par l'ex-femme de Roberto.
L'ex-femme de Roberto.
L'ex-femme de Roberto. Angela.
Ah, pardon. Ah,
qui était une immense chanteuse aussi.
Ouais, ouais. Tiens, vous appelez les gens par leur prénom.
Ouais. Bah, Roberto Alania, il n'y en a qu'un, non?
Et, non, vous avez dit l'ex-femme de Roberto. Des
ouais,
Roberto, j'en connais plein.
Ouais, c'est vrai.
Parce que l'actuel, c'est Coujac.
Oui.
Ah, vous balancez tout. Ok, d'accord.
Non, oui, mais
on l'a reçu.
Très bien. Pourquoi Thomas VDB reste un fan de musique frustré?
Parce qu'il aurait voulu être guitariste.
Peut-être,
batteur.
Mais peut-être.
Un fan de musique frustrée.
Ouais.
C'est quoi la musique frustrée?
Non,
parce qu'il a pas
c'est
pas il a pas rencontré Freddie Mercury.
Il a vu tellement de concerts que maintenant il s'ennuie.
Non.
Bah parce qu'il a essayé, il s'est déçu.
Non.
Ce qui est chelou, c'est que j'ai même pas la réponse.
Ouais, c'est ça.
Pourquoi tu restes frustré?
Ouais.
Par rapport à la musique?
Bah oui.
Parce que tu sais pas jouer, t'es pas bon, t'as
pas
l'oreille.
Pas
il préfère écouter.
Aucun instrument, non, c'est même pas
d'aucun instrument.
Ni guitare, ni batterie, ni tambourin, quoi.
Je joue
rien.
Aussi bien de tous les instruments, c'est-à-dire je sais jouer de tous les instruments, c'est-à-dire très très mal, en fait.
Est-ce que vous avez au moins le sens du rythme?
Ouais. Hey, on tape dans sa main, voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Là, c'est les bon, batteurs qui nous écoutent.
Ah,
c'est pas le dernier. Hein.
Est-ce que vous avez au moins essayé? Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous vous êtes dit.
Mais c'est trop d'efforts à chaque fois pour moi, je comprends pas, mais je sais pas, non, mais vraiment, même la guitare,
vrai,
j'ai plein de potes qui m'ont toujours dit, mais apprends à jouer de la guitare, c'est hyper facile, mais au bout d'une heure, je me dis, viens, on va boire un café, c'est trop, vraiment.
Ah oui, au bout d'une heure, on peut pas savoir jouer de la guitare.
Non, non, j'aime mieux, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, mais je suis un grand consommateur de musique, mais voilà, non, pas vraiment.
Est-ce que votre frustration de ne pas jouer d'instrument augmente votre admiration pour ceux qui en font?
Oui, mais surtout ma frustration augmente avec les années. C'est-à-dire plus ça va, plus je regrette de me dire c'est dommage, vraiment je ne dois pas jouer de piano. Pourquoi il me regarde comme ça, Daniel Moore hein,
Peut-être,
on a l'impression que rien de ce que je dis n'est clair.
Daniel, mets ton casque parce que tu viens de soupirer dans le micro et ça fait une espèce
c'est Pumba,
de.
C'est Pumba quoi.
C'est Pumba.
C'est ça. C'est mon imitation de Pumba.
C'était Hakuna Matata. Pourquoi la maman de Julie Depardieu lui interdisait de voir Danton? Alors, aucune vanne sur Danton, et la... complétez ça, hein, vous oubliez, s'il vous plaît.
Tu penses à quoi, Nagui?
Franchement, au Barjabul, mais bon...
Non.
Pourquoi on pouvait... Parce que c'était violent, il y avait une scène de meurtre, et il y avait son papa dedans.
La coupe de cheveux de son père.
Parce que Gérard se faisait décapiter.
Bah, du coup...
C'est vrai que quand on est môme, on peut pas capter, c'est du cinéma.
Après,
quoi.
Ça m'a énervé, après je l'ai plus regardé, parce que j'ai dit non, c'est bon. Et ben, après, je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais je me sentais capable, genre à 8 ans, de le voir, parce que je savais que c'était pas vrai.
Ouais, oui, mais
elle ne voulait pas.
Je ne sais plus, c'était Marina Hans qui avait crié parce que sa maman se faisait
gifler
sur scène au théâtre.
Ouais. Ah bah ouais.
Donc, criait de joie.
Non.
Vas-y, cogne.
Thomas VDB à la poisse.
Ouais.
Ouais. Non, mais attendez, à la fin, quand même. J'ai pas dit, il a pas toujours la poisse. Il a la poisse avec quelque chose de précis. Quoi?
Il est avec nous ce matin.
Non.
Les horaires, le réveil.
Non. Ça peut avoir.
La ponctualité, donc.
Non.
Les rendez-vous, il oublie les choses, il note mal les choses.
Il rate ses trains.
Non.
Ouais. Ses avions. Il se fait toujours contrôler par la police.
Contrôlé par la police.
Tout ce que
quand il fait la queue, elle est longue. Quand il choisit une queue, elle est beaucoup plus longue.
Ça, c'est la loi de Murphy. Non. C'est de. Tout ce que vous dites là peut avoir un rapport avec sa poisse. Mais sa poisse serait au-dessus de ça. Le côté le réveil, le rater le rendez-vous, le pas savoir où aller ou quoi faire, ainsi de suite. Mais il a une poisse qui...
J'ai peur que la réponse n'ait aucun sens.
J'ai vraiment hyper peur. Parce que... Non, mais j'en connais d'autres comme lui.
Ah.
J'en connais d'autres comme lui.
Qui est lié à une journée particulière,
il a une particularité.
Et ouais, et à mon avis, il peut pas le contrôler.
Il est maladroit, il casse tout, il fait
avec
tout.
Quoi
avec quoi? Avec
les objets.
Oui,
avec
mais lesquels?
Les objets fragiles.
Avec le téléphone.
Alors, plus généralement,
les télécommunications,
la
technologie.
Exactement, Tom. T'avais des téléphones, tout ce qui est électronique,
tous les objets avec un moteur, tous les appareils, toutes les choses qu'on appelle les appareils. Ça, je n'y arrive pas. Mais c'est-à-dire le maximum du bricolage pour moi, c'est brancher un truc et appuyer sur on. Après, dès qu'il y a un truc qui marche pas, je suis comme une poule devant un couteau. Je ne sais pas comment fonctionnent les appareils.
Une voiture.
Je ne sais pas conduire moi. C'est impossible de conduire une voiture.
Ah d'accord. Donc c'est pas spécialement électronique parce que
je connais tout mécanique,
de la même manière que t'as
électronique, tout ça c'est mort.
Mécanique, électronique,
les mains, oui, je sais faire ça avec mes mains, je sais les emboîter. J'ai emboîté mes mains, je sais tourner mes pouces. Là, ça c'est des trucs de bricolage.
Vous savez taper des mains,
taper dans les mains sans du rythme. Non mais vraiment j'ai vraiment un truc, c'est pas une poisse, c'est vraiment un truc que je
si parce que est-ce que par exemple vous si vous êtes sur un ordinateur, est-ce que l'ordinateur par exemple ne s'allume pas, est-ce qu'il bug, vous allez sur un téléphone portable, justement vous mettez le réveil on mais il sonnera pas parce que le truc est pas passé.
Bah, c'est souvent avec moi, ouais, par exemple si on m'achète un truc neuf, je suis là ouais, super, et puis je vais tomber sur celui qui a un défaut et donc je vais le brancher et donc déjà il marche pas, et celui qui me l'a offert il fait oh c'est dommage, il marchait bien au magasin. C'est à moi que tu l'as offert. Ça ne marche pas,
c'est une addiction.
Non, c'est ça, c'est que moi je connais quelqu'un qui a un peu le même syndrome que vous, mais c'est un problème de magnétisme.
Il dégage
exactement,
c'est peut-être ça.
C'est-à-dire que vous pouvez lui mettre n'importe quelle montre, elle sera jamais à l'heure sur son poignet, alors qu'elle sera à l'heure sur le poignet de n'importe qui.
Il faut peut-être aller voir un magnétiseur, un rebooteur.
Mais vous avez une montre ou pas?
Un mage.
J'ai pas de montre, mais j'ai un téléphone, donc j'ai l'heure quand même.
Mais, oui, non,
mais il marche le téléphone?
Bah non.
Il marche. Il suffit de le brancher, il marche tout le temps. Ça, c'est bien quand même.
Pourquoi Julie Depardieu ne regarde jamais de série?
Parce que c'est un enfermement, c'est une prison.
Addictif.
Exactement. Vous avez peur d'être accro.
Ouais. Non, mais en même temps, vous savez, je m'y risque pas trop à la série. Hein. Ça me fait peur, voilà.
Vous avez fait quoi?
Non, je m'y risque pas trop en tant que spectateur.
Ouais, vous n'allez pas sur Netflix pour regarder Game of Thrones?
Non, j'ai Netflix, mais j'y vais pas.
Pourquoi bien Netflix présent,
bah, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas me désabonner, mais je suis comme lui.
De toute façon, beaucoup de gens qui ont Netflix passent surtout du temps à regarder le menu Netflix pour choisir un film. Une fois qu'on a choisi le film, vu que ça fait qu'une heure qu'on a été choisir, on s'endort au début du film.
C'est vrai.
Ça va me rappeler que c'est plus des heures entières devant le menu. Qu'est-ce que je vais regarder?
Ça sent le vécu. Avec les pages qui tournent.
Je lance le film, puis il bug au bout d'une heure.
Mais quand vous avez des potes, Julie Depardieu, qui vous disent t'as pas vu Years and Years,
eh ben j'ai jamais rien vu.
Non mais d'accord, il y a pas un moment où ça vous titille ou
pas
vous
du
dites
tout
à quoi
si,
ça peut
ressembler. Si la servante écarlate, ça m'avait titillé, mais voyez, j'y suis toujours pas allée. Ouais. Pas que c'était génial.
Mais c'est pas sur Netflix.
Ça, ah bon d'accord.
Donc ça vous manque. Non mais donc le côté il paraît que c'est génial. Ça vous manque.
Pas tellement.
Non.
Mais moi je pense que je découvrirai ça quand tout le monde aura détourné son regard vers autre chose de beaucoup plus intéressant. Voyez, voyage, moi je crois à la 3D, je crois que tu pourras te transporter à l'autre bout et puis tu te reconstitueras à l'autre bout du monde. Et moi je regarderai des séries.
La 3D, c'est la téléportation.
La téléportation, voilà. Je pense que ça sera palpitant, il y aura plein de trucs à faire. Et
la
moi
3D,
je serai de là, garderai
c'est une lunette
des séries
avec un côté rouge et un côté bleu. C'est autre chose à 3D.
Ah, on a deux geeks à table.
Quelle corporation a été mise en furie par Thomas VDB
à la SPA.
Après un article
sur les pigeons
dans Télérama, exactement. Ouais. Sur les pigeons, vous avez eu des problèmes?
Oui, non, mais parce que j'avais dit dans une interview. Mais
il n'est pas le seul à penser ça. Hein.
Quelqu'un m'avait dit qu'est-ce que tu changerais à Paris dans une interview comme ça. Et j'étais, qu'est-ce que tu veux que je change à Paris? Moi, j'ai pas d'adresse. Et donc j'ai dit, bah non, ce serait bien si on avait le droit de se promener avec des dagues. Et éventuellement dégorger les pigeons quand on trouve qu'il y en a trop.
Ah non,
et donc alors effectivement il y a eu un tollé. Évidemment je pense pas qu'il faut se promener. Parce que là je pense qu'il y a des auditeurs qui sont en train d'avoir des crises de nerfs en train d'écouter.
Mais surtout les pigeons qui nous écoutent.
Non mais le plus drôle c'était ta réponse.
C'était l'excuse.
Voilà.
Je voulais pas dire pigeons.
Voilà. Non mais c'était un moment en plus où il y avait beaucoup de soucis, enfin de problèmes de gens qui voulaient refuser les réfugiés politiques, les migrants qu'on appelait les migrants en France. Et je voyais le tollé qui était fait pour défendre les pigeons alors que pour les migrants, pour les réfugiés, pour les migrants.
Personne
n'avait aucun, halluciné. Mais donc voilà, effectivement.
Donc vous avez présenté des excuses et vous avez dit, je ne voulais pas dire pigeon.
Je te dis, c'était évidemment, c'était pas les pigeons, c'était des migrants, je parlais. De toute façon, on peut y aller, vu qu'il n'y a plus personne pour les défendre, on peut y aller.
Alors, vous retrouvez Thomas VDB, invité par Julie Depardieu, ou presque, en tout cas, dans cette série que vous portez, puisque dans un épisode qui passera la semaine prochaine, qui s'appelle L'Hermaphrodite, alors je rassure tout de suite votre famille, ce n'est pas vous.
C'est pas moi.
Non, je ne sais pas pourquoi je dis je rassure votre famille, en tout cas, ce n'est pas vous l'Hermaphrodite.
Il y a un truc, il y a un dossier.
C'est... Non mais pour les hermaphrodites qui nous écoutent,
tollé avec les hermaphrodites. Association des hermaphrodites.
Je voulais dire migrants, pardon.
Il faudrait qu'on puisse les tuer tous.
Là justement.
L'hermaphrodite en question qui passera la semaine prochaine, Julie Depardieu, c'est déjà un cadavre quoi. C'était
dès le début. Il y a deux personnes inside.
C'est ça.
Un corps, il y a moitié un, moitié l'autre.
Un tronc de femme.
Je ne vous dirai pas quelle est la moitié masculine, bien sûr.
Bah si.
Bah si, j'étais en face, il y avait le corps. Il y avait la moitié masculine, c'était...
Le bas.
Ce que je pense.
Les jambes. Donc.
Et puis, donc c'est un cadavre découpé en deux.
Non, collé. Recousu.
Découpé et collé, et voilà.
Découpé,
mais lui, il le voit pas. Hein.
Découpé à la scie, sauteuse.
Ouais, je sais pas, ouais.
Non, mais alors ce qui est assez intriguant dans le gimmick qui revient d'ailleurs dans la série assez souvent, c'est le corps va parler ou je vais faire parler le corps.
Faire parler les corps.
Je dis.
Bien sûr.
Non, mais la phrase précise, c'est quoi déjà? Je vais faire parler le corps ou le laisse parler le corps?
Je sais pas, attends.
Si, c'est
je n'ai même pas regardé hier soir parce que.
Non, mais vous le dites dans tous les épisodes.
C'est
votre gimmick. C'est vous le personnage.
Je ne sais plus. Oui, c'est vrai, c'était moi. Eh bien, oui, le corps va nous donner des indices. Attendez, non. Je vais m'en occuper. Je ne sais pas. Voilà.
Il faut faire parler le corps, je crois. Il y a un truc
comme
voilà.
Eh bien, voyez, vous êtes meilleur en mémoire que moi.
Il y a. Oui, moi, je regarde.
Moi, je suis dans l'instant présent, mon vieux. Je ne sais pas.
Alors, vous retirez ce mon vieux. Tout de suite.
Non, bah écoutez, déjà.
Si c'est vrai.
Évidemment, ça, c'est blessant. C'est blessant.
Non, mais lui, il a bonne mémoire. Tu vois, moi, pas du tout. Je ne sais plus.
D'accord.
J'aime me laisser surprendre comme si je ne l'avais jamais dit.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette série? La fraîcheur avec laquelle vous pouvez jouer, c'est-à-dire, elle est beaucoup moins traditionnelle?
Ouais, bien sûr. Non, parce que les séries, comme je n'ai pas beaucoup accès, moi, en tant que spectateur, je me dis, bon, faut pas que ça dure 3 heures sur les déductions, machin. Voyez, moi, je suis un spectateur assez difficile, hein, puisque j'en regarde très modérément, mais quand ils font 3 heures de non, moi, je pense que si, parce que là, elle a été étranglée par ceci, machin.
Faut dire, vous êtes médecin légiste hein, dans l'histoire quand même. On n'a pas présenté le personnage.
C'est vrai, pardon.
Donc j'ai bien mon petit texte sur l'aorte fémorale gauche. Ouais. Était donc percutée par un coup franc de, je sais pas quoi.
Un coup franc d'Mbappé sur la droite. Qu'est-ce qu'il vient faire
là? Un coup franc de son partenaire, je sais pas.
D'accord.
C'est moi ou c'est bizarre comme émission?
En même temps, on fait la promotion d'un film qui est passé hier.
On dit des trucs.
Non mais blague à part, l'originalité de cette série, d'abord, c'est que il y a des histoires humaines, puisque il y a des histoires de couple, des histoires de famille, et des histoires d'ados qui viennent se mêler à tout ça, et que c'est vrai que votre frère, joué par Bernard Hiérès, lui est policier.
Et il a plein de galères. Personnel, bien sûr.
Il a des galères personnelles, il a des galères aussi avec des copains flics qui l'espionnent, on ne sait pas trop d'ailleurs ce que veut cet autre flic qui le prend en photo, qui l'espionne et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs intrigues dans l'intrigue, et puis il y a aussi cette histoire humaine avec une bande aussi. Vous avez une camarade de jeu qui est médecin légiste avec vous, il y a un jeune, on ne sait pas si...
Un jeune stagiaire qui est
amoureux, enfin qui est choqué de certains cadavres et qui peut tomber amoureux de votre fille.
Mais en fait, on va s'apercevoir. Moi, j'ai le prochain. Il est pas avec moi.
Hein. Ah oui, oui. En tout cas, vos méthodes sont pas traditionnelles.
Vous dites quoi? Vous avez vu le prochain, celui avec Thomas VDB?
Oui, je l'ai vu.
Oui, mais nous aussi, on l'a vu.
Oui, non, mais d'accord, mais moi, je te parle de celui que nous allons faire.
Après l'Hermaphrodite.
Le mois d'octobre.
D'accord.
Et peut-être qu'il va se passer des choses avec le jeune et pas avec moi.
Alors justement, Thomas VDB, vous débarquez dans la série, vous arrivez vers la fin de l'épisode et on sent que vous allez être un personnage beaucoup plus présent dans la suite. Vous êtes au niveau familial, l'ex, le mari, le...
Ouais, c'est ça, l'ex. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bizarre de dire l'ex parce qu'en fait, c'est la première fois qu'en fait, on n'a même pas tourné ensemble avec Julie.
Non, non.
Et c'est la première fois de notre vie qu'on se rencontre.
Ouais.
C'est quand même bizarre.
C'est déjà votre ex.
En fait, j'ai envie de la vous voir.
Ah ouais, c'est marrant.
C'est comme si j'ai l'impression de rencontrer ma femme pour la première fois. Ça va être à tourner ma neige un peu. En fait. J'imaginais pas du tout comme ça. C'est vrai que je suis l'ex qui ressurgit.
Un peu relou. Complètement
relou. Le personnage, et je pense qu'ils ont regardé le côté boulé qu'il pouvait y avoir chez Thomas VDB. Et ils ont aménagé un personnage. Vraiment, le personnage a été façonné dans l'histoire. Et donc, effectivement, on tourne un épisode le mois prochain dans lequel j'apparais davantage.
On va s'engueuler, je pense.
Je surgis pour la première fois dans l'épisode qui va être diffusé la semaine prochaine.
Mais c'est cohérent parce que vous êtes déjanté dans la vie. Vous, Julie, aussi un tout petit peu et dans la série encore plus.
Ouais, léger, hein.
Ah si, dans la série, vous êtes bien déjanté.
Ouais, parce qu'elle ne fait pas toujours ce qu'on lui dit
de faire. C'est pas un médecin légiste comme les autres.
Non, voilà.
Voilà. Elle fait pas simplement son rapport de.
Non, bah elle
j'ai
est passionnée par son travail.
Non, mais elle se dit, il y a des logiques dans tout ça. Elle analyse.
Je vais faire parler les corps.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça m'est revenu trois plombes après. Son corps va parler. Oui, je vais faire parler les corps.
C'est ça.
Oui, mais moi, je vais vous dire.
Alors que Daniel Morin le fait parler, mais on veut pas.
Je prends le métro. Les corps parlent. Tu regardes les gens et leur corps, ils parlent. Pas besoin qu'ils soient morts. Tu vois la rétention d'eau, les grosses chevilles, les cernes. Tu vois tout sur les corps des vivants.
On voit s'il y a des cales sur les mains, on voit si c'est quelqu'un qui reste assis en permanence, si c'est quelqu'un qui est en mouvement.
Tu vois l'énervement, tu vois... Donc pas besoin qu'il soit mort, quelque part.
Vous êtes posé la question de savoir si le rôle d'un médecin légiste vous allait bien ou pas quand vous avez accepté la série.
Non. Quand j'ai passé les essais, je me suis dit justement ça m'allait pas.
Je vais y arriver.
Justement, je me suis dit ça m'allait pas.
Vous avez dit c'est pas pour moi.
Bah bien sûr.
Pourquoi?
Parce que je suis comme ça.
Le flair.
Dès qu'il y a un truc, je dis toujours oh non, peut-être pas, parce que je vous dis peut-être quelqu'un d'autre fera plus l'affaire.
Vous voyez en quoi en fait?
Moi?
Ouais.
Bah qu'est-ce que j'aimerais faire ou comment je me vois moi?
Dans quel rôle ça serait évident? Vous diriez oui, ça s'appelle
une marquise très distinguée du 18e.
Ouais.
On fait dans la vanne tout de suite, d'accord.
Non, mais c'est vrai, ça me ferait rêver.
Mais pourtant, on a quand même l'impression que le personnage a été construit sur mesure pour vous.
Bah parce que ce genre de truc, autant faire en sorte qu'il te ressemble. Parce que, je vais vous dire, la prétention de certains acteurs qui te font avaler, qui sont quelqu'un d'autre, moi, je suis pas sûre que j'y crois. Moi, spectateur, je suis une garce, hein, mais... à part quelques Américains, quand c'est très 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 bien fait, je peux croire à que la personne se transforme en une autre. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on fait avec ce qu'on est. Hein. T'as cette forme Dieu, toi Nagui, c'est comme ça. Tu vas pas, je sais pas, non.
Ah, j'y peux rien. Ouais.
On fait avec la matière première, et puis après, bon. Donc, je me suis arrangée pour qu'elle me ressemble un peu. Ça m'arrangeait.
Vous connaissiez Bernard Irélès depuis des années, plus de 20 ans, c'est ça?
Je l'avais rencontré sur un film de Pierre Salvadori. Je venais de rater mon bac, hein. J'étais vachement contente. J'allais me retaper une année et je vais voir mon frère qui travaillait, lui, avec Pierre Salvadori.
Sur Les Apprentis.
Ouais, et y avait Bernard Irélès, qui était, à l'époque, il imitait Gérard, donc comme il lui ressemblait un peu, fou. Gérard, mon paternel. Donc on disait, ah bah ouais, c'est vrai, il lui ressemble un peu. Puis voilà, je lui ai parlé deux jours, il était sympa. Et j'étais vachement contente que ça soit mon frère, parce que du coup, j'y crois.
Dans la série.
Ouais, pardon.
Oui, oui, il manquait un.
Ah, je suis pas claire.
Non.
Non, bah pas très de monde.
Est-ce qu'il y a des. Dans la situation de découper des cadavres, d'opérer, on sait bien que tout ça, c'est du cinéma, c'est de la fiction, c'est... mais il y a des images relativement un peu crues. Alors, ce sont des effets spéciaux qui sont bien faits, ça vous amuse le côté fausse hémoglobine, je découpe des doigts pourris et.
Ouais, c'est marrant, parce qu'évidemment, tout est en latex hyper bien fait. Et donc, le fameux cadavre, l'hermaphrodite, que peut-être vous verrez, avec le bas de l'homme et le haut de la femme.
Ouais.
Bah, quand c'est un cadavre, tu vois, tu peux mettre, c'est quand même des gros textes techniques, tu mets le cadavre où tu peux, c'est-à-dire... tu mets le texte où tu peux, c'est-à-dire j'avais planqué mon texte dans l'espèce de jupette.
J'ai eu peur. Dans les fesses du cadavre.
Bah oui, mais comme il était nu, c'était trop marrant parce que moi ça me faisait rire. Vous voyez, jupette. Je soulevais la petite jupette parce qu'il avait, il était, et j'avais donc mon petit texte sur le sexe en latex du cadavre. Et ça m'a fait beaucoup rire. Vous voyez, je me marre. Hein. j'avais pris une photo que je voulais vous montrer.
Celle qui est passée hier, l'épisode.
Oui.
Qui est passé
elle était vivante. Et
elle était vivante.
Ouais.
Donc,
une fausse morte.
Elle c'était voilà, la comédienne jouait le cadavre nu sur le
oui,
sur
ben
la
ça,
table.
Je n'ai pas foutu de texte.
D'opéra.
Je sais pas tenir les yeux. Je fais que sur les vrais.
Elle se réveille d'un coup. Non, mais c'est super impressionnant parce qu'elle était en effet
cadavérique,
toute, toute blanche.
Et elle se réveille, bien sûr. Non, mais c'est marrant comme présupposé de départ.
Thomas VDB, vous êtes tombé là-dedans. Comment vous? Alors, vous avez envie de rentrer dans le monde des séries? C'est votre première ou pas?
Disons que la fiction, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. J'ai fait des petites choses sur des séries déjà. On m'a contacté, comme je dis, en fait, quand on m'a contacté et qu'on m'a proposé ce rôle, en fait, on parlait d'un autre rôle d'abord.
Ah.
Et j'ai dit, ah ouais, super!
Qui était plutôt le rôle d'un guest ou qui était plutôt
un autre rôle?
Oui, mais
c'est un différent rôle.
Non, mais Thomas, la question, c'est un autre rôle qui était que sur un épisode ou
exactement.
Un autre rôle qui restait sur plusieurs?
Exactement, c'était un rôle sur un épisode qu'on proposait. J'ai dit que j'étais OK pour faire ce rôle avec plaisir parce que je trouvais le texte hyper marrant. Je trouvais le personnage de Julie très fantasque et tout. Enfin voilà. Donc, et donc j'ai dit OK, je veux bien faire ce truc-là. Ils m'ont dit ah ouais, tu veux bien jouer dedans? Bah attends, on va t'écrire un autre rôle alors. C'est plus la même chose alors. Ils m'ont créé un rôle.
Qui ressemble un petit peu à version
de boulet. Ils m'ont dit, tu veux bien jouer dedans? On va créer un rôle de boulet, mon gars. Et donc voilà, je me suis retrouvé à jouer un rôle, qui m'amuse beaucoup plus.
Et quand on a un rôle comme ça qui est taillé sur mesure, est-ce qu'on discute avec les auteurs? Est-ce qu'on donne des pistes?
Quand je suis venu tourner au début de l'été, en fait, à Bordeaux, j'ai vraiment pas arrêté de dire au réalisateur que je me réjouissais de tourner cette scène, cette unique scène qui apparaît donc à la fin du prochain épisode, parce que j'étais là, ça va être un plaisir à jouer. Et puis ils m'ont dit, ah mais tu vas voir, ton personnage va revenir et tout. Donc en fait, on a reçu tout récemment les textes du prochain épisode. Et donc c'est un plaisir de voir qu'ils ont, ils ont enfoncé le clou sur ce personnage qui est un peu boulé, que je m'amuse beaucoup à jouer, et qui rentre dans les pattes de tous les personnages.
C'est chic en tout cas d'avoir des auteurs qui vous désirent et qui écrivent sur mesure.
Ah ouais, j'ai trouvé ça hyper flatteur. Ouais. Et donc quand je l'ai lu, j'ai dit effectivement, j'ai vraiment eu l'impression que ça avait été écrit exprès pour moi.
C'est vrai.
Justement, alors donc ils l'écrivent en connaissant le personnage de Thomas VDB parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas comédien, que vous n'êtes pas capable de jouer un rôle.
Je sais pas, ou en tout cas que je suis très capable de jouer le rôle que je joue souvent.
Te charrie, Thomas. Justement, à partir de maintenant, vous n'avez pas de réponse à donner ni à formuler. C'est Tom Villa qui va faire et les questions et les réponses.
Julie Depardieu, Thomas VDB, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue dans la bande originale, l'émission qui parle de culture, de toutes les cultures. Mais petite particularité, contrairement à d'autres émissions de la station, nous on a la chance d'avoir un petit public.
Alors est-ce que vous êtes chaud?
Ouais, on est très chaud, merci Thomas. Un public certes, mais de personnes en fin de vie, donc merci de ne pas les réveiller.
Hein,
aïe aïe aïe, voilà. Thomas, on connaît votre personnage un peu foufou, vous êtes sur scène, mais vous êtes aussi un acteur qu'on voit de plus en plus au cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau métier?
Je me frotte contre la mousse des arbres, j'adore.
Je me frotte contre la mousse des arbres, ok, très bien. En fait, Julie Depardieu, on est d'accord, Thomas, il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Hein.
Il n'est pas peut-être comme nous.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Après, de là à dire qu'il est différent, je ne sais pas, mais...
C'est peut-être nous qui sommes inadaptés par rapport à lui.
Exactement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, on peut le dire comme ça. C'est sûr que vous paraissez un petit peu plus normal.
Je suis enfermé dans la prison parce que j'ai tué quelqu'un.
Oui, d'accord, donc vous êtes compliqués tous les deux. Très bien. Alors, Julie Depardieu, on va quand même essayer de parler un peu de cette série avec Thomas VDB et vous.
Hein. Bonjour, je suis la fille de Gérard Depardieu.
Attendez, non, je voulais pas du tout en parler, vous mettez les pieds dans le plat comme ça. En plus, vous n'êtes pas que ça. Hein, donc...
Vous savez, j'ai des connaissances. Bougival.
Oui, c'est formidable, on les embrasse, ça fait partie de ce que vous êtes. Hein,
qui c'est qui a mangé ma compote de pommes?
Alors Thomas, deux choses, non, même trois choses. De un, on coupe pas la parole des adultes. De deux, qui c'est qui n'existe pas dans la langue française. Patrick Bruel n'a pas chanté qui c'est qui a le droit. Et petit trois, personne n'a mangé votre compote. Donc on va se détendre un petit peu. Julie, comment ça va vous en ce moment?
Je suis super heureuse, j'ai une vie géniale, j'ai mon enfant, je vais avec mon mec au pique-nique.
Bah, c'est trop bien ça. Et en vrai?
Je suis fatiguée, je suis déprimée.
Non, c'est pas grave, c'est l'automne. On en est tous là. Hein, c'est...
Viens, tourne dos pour la huître.
Oui, Thomas, le prenez pas mal. Vraiment. On sent que vous voulez faire votre intéressant. Bah, tiens, voilà, vu que vous voulez parler, tiens.
Il a faim, Thomas.
Voilà, c'est pour vous. On va faire un petit défi. Vous êtes un expert musique. Petit défi, allez-y, faites-nous le générique de notre émission, la bande originale, juste à la voix en beatbox. Et non, perdu, c'est On n'est pas couché de Laurent Ruquier, là. On est dans l'émission de Nagui à la radio. Hein.
Tout de suite, des places à gagner pour le concert de Mika.
Voilà, ça c'est Nagui, exactement. Ça c'est... Bon, Julie, on arrive à la fin de l'interview. Un petit mot sur le film quand même.
Mais le film est beau.
Et ben voilà, parfait, bonne émission.
Bravo, Tommy, là.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est Munch rencontre Alexandra Aile, en fait, dans vos...
Ah oui.
Vos deux personnages.
Ah oui,
mais je parle de ta série.
Oui, non, mais c'est celle d'Isabelle Nanty. Oui, il y a un petit côté.
Ne sois pas timide.
Non, mais il y a un petit côté.
On sait bien que cette série sur TF1 fonctionne parce que c'est toi.
Oui.
Ah.
Et ouais, il est dedans.
C'est le même réalisateur qui fait.
C'était qui le réalisateur?
Nicolas.
Ah, Guichetot.
Yes.
Formidable, formidable.
On va vous laisser.
C'est un génie, il est très gentil, il est super fort, il aime les acteurs et voilà, donc c'est important de le rappeler.
Alors,
il a fait plein de trucs formidables.
Qu'est-ce qui est difficile sur une série? C'est de pouvoir tourner le plus de minutes possible en une journée, c'est les cadences infernales.
Ça c'est pour lui que c'est dur.
Non mais pour vous aussi, j'imagine.
Bah, bien sûr.
Prendre le texte, il faut être toujours prêt.
Bien sûr. Ben on s'entraîne comme on dit. On essaye d'être, de pas refaire 40 prises pour pas saouler tout le monde.
Vous tournez en combien de temps un épisode? C'est quoi à peu près le...
Un mois? 4 semaines?
4 semaines pour un épisode?
Moi j'ai fait une journée, donc ça a duré une journée.
Excuse-moi. 4 semaines, ouais. 20 jours.
Et 20 jours,
t'as 5 jours par semaine.
Pour une heure et demie. Ouais, c'est 1h30, c'est pas 52 minutes.
Oui, mais José Dayan ferait 9 jours. Non, pas du tout.
Et elle en ferait 6.
Et le making of avec.
Voilà.
Et de réunir 4 millions de téléspectateurs, alors qu'au cinéma, ce sont des chiffres qui sont impossibles aujourd'hui.
Mais moi qui viens de Bougival, donc je n'ai aucune formation sur les chiffres, mais tu fais 3 millions à la télé, tout le monde te regarde comme si t'étais de là. Et 4, c'est génial, 3, c'est nul. Moi, je n'ai aucun savoir sur ça. C'est super, mais je n'ai rien à dire. Vous voyez, mais ça sert à rien de parler quand on n'a rien à dire.
J'en conviens.
Tout le monde le fait, hein, les gens parlent, pourquoi?
Est-ce que c'est grisant de se dire, là, ce matin, quand on vous a dit, 4 millions de gens vous ont vu, ça vous fait rien?
Je sais pas, non. Je me grise pas de ça, monsieur, moi.
J'écoute
Beethoven et je suis grisée.
Ok, très bien.
Bah voilà.
Voici l'humeur de Guillermo Guise. Ça va les amis gosses?
Ouais.
Ok, je suis chaud pour une bonne anecdote. Moi,
ouais.
Ça tombe bien, c'est moi qui écris mon texte. Alors, anecdote. Il y a 3 semaines, j'étais avec Thomas VDB. On est ici présent. On était dans le train. On parlait de Guillaume Meurice. Je me rappelle, il disait, ouais, tu sais que Meurice, c'est pas que l'immobilier au Cap Ferret. C'est aussi des business au Qatar, hein, holding au Luxembourg. Il m'a dit, tu sais que c'est un magnat du sucre. J'ai dit, bah, oh, putain, je savais qu'il avait des plantations. On va dire que c'est un tycoon. Bref, à ce moment-là, il y a un chien qui arrive dans le wagon-bar. Thomas, il aperçoit le chien. Mon Dieu.
La pauvre bête. Sur ce que j'ai de plus cher. Ça, c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que je voyais un humain sauter sur un chien. Vraiment. Thomas, il l'a léché partout. Il bavait dans ses yeux. Tout le chien était terrorisé. Ah non, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Dans un train, tu fais la même chose à un inconnu. Humain, tu prends trois enfers. Mais vraiment. Et... c'est vrai. Thomas, il aime bien les chiens. Il aime bien les chiens. Quelque part, on aime tous les chiens. J'en parlais avec un pote chinois qui me disait, mais tellement, j'ai une petite recette si t'aimes un tout petit peu manger épicé. Et parce que oui, ça intéresse aussi. On fait aussi des blagues sur les chinois qui mangent des chiens. Oui. Alors qu'en réalité, est-ce que les chinois mangent majoritairement, c'est les cochons, figurez-vous, 56 millions de tonnes par an. Là-bas, les chiens, c'est plus un an, quatre, tu vois, vraiment. Alors qu'un cochon, c'est pas moins intelligent qu'un chien, en vérité. Hein. Tu sais quoi, un chien et un cochon, tu les fais jouer à bataille, ils vont manger les cartes, parce que c'est pas un jeu qui est adapté pour eux. Mais vraiment, le cochon, c'est vrai. Le cochon, c'est un animal social, c'est sensible, c'est malin, un cochon. Ils ont plein de points communs avec Sapiens. Les cochons, ils ont 44 dents, c'est que deux de moins que Jean-Marc Morandini, tu vois, vraiment. Et ils courent à 45 km heure, tu vois, comme Xavier Dupont de Ligonnès, il y a un truc... ils ont un odorat hyper développé, ils peuvent reconnaître une personne à 100 mètres, rien qu'à l'odeur, ils sont là, Daniel, c'est toi, tonton Daniel. Regardez George Clooney, par exemple, il se baladait en rue avec un petit cochon. Toutes les meufs disaient, oh, le petit cochon. Et là, c'était parti, what, it's me, le petit cochon, oh no, it's a misunderstanding, etc. Oh, my name is George, qu'est-ce qu'il a pu fourrer avec cette technique. François Bayrou, par exemple, il essaie la même chose, et il se balade tout le temps avec son zèbre, et chaque fois qu'il croise une fille, oh, vous pouvez le caresser, il s'appelle Christian, la fille fait, non, merci, enfin, tu connais François. Après, en parlant de cochon l'autre jour, j'ai lisé un petit article qui disait qu'en Chine, 50% des cheptels risquaient d'être décimés par la peste porcine africaine. Et je me rappelle, ça doit être beaucoup de cochons quand même. 50% des cheptels, il y a 26 millions de porcheries en Chine. Vous savez, le virus se transmet de manière foudroyante. Je sais pas si vous êtes déjà dans une porcherie. Moi, je connais que les toilettes de France Inter, mais tout se transmet. Ça se transmet très vite. Hein. Franchement, moi j'ai un peu de demeurant en moins, un peu de trapenard. C'est sûr, ça fait titre. C'est terrible.
Il fait ses titres tout seul.
C'est la plus grosse épidémie animale de l'histoire. En Chine, il y a 5 millions de cochons qui en sont déjà morts ou qui vont mourir préventivement. Il y a une étude qui parle de 200 millions d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas de vaccin, quoi. Et vous allez me dire, oui, enfin, de toute façon, quand t'es un cochon, vaccin, pas vaccin, malade, pas malade, au final, comment te dire, dans l'élevage industriel, c'est pas que les cochons qui sont pas infectés sont là, ah ouais, on l'a échappé belle, à nous les petites anglaises. Hein. Non, tu vois, quand t'es un cochon, si tu consultes une voyante, il y a toujours un moment où elle va te faire, bah, je vois une assiette, du melon. Et qu'on se me prenne pas du jambon, j'en ai mangé dans ma vie. Hein. Je crois que si tu empiles une par une toutes les tranches de jambon que j'ai mangé, t'arrives au 6e étage de Radio France, franchement, mais en l'occurrence, ils meurent pas, même pas au nom d'Achivana, et c'est triste, quoi. Et là, en Chine, pour compenser les pertes financières, il y a des producteurs qui sont en train de créer des cochons monstrueux de 500 kilos. Oh. C'est horrible. Le poids d'un ours blanc, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est horrible.
C'est génial.
Et là, je me suis imaginé dans un train à parler des liens quasi fraternels entre Guillaume Meurice et le roi des îles Caïmans et voir arriver un cochon de 500 kilos, lui sauter dessus et le lécher comme Thomas Védébé, parce que moi aussi, j'aime bien les animaux. Et bonne émission, les amis.
Merci. Guillaume.
Et la bande originale.
J'avais trop de Guillermo Guise dans la bouche. Ça
titre.
Voici la bande originale de Julie Depardieu et Thomas VDB en musique en 98. Vous écoutiez Julie.
Tchaïkovski.
Ouais. Vous baignez dans la musique classique en permanence.
Mais non, mais j'étais obsédée. Ouais. Tous les gens qui me connaissaient, ils me fuyaient parce que j'écoutais que ça toute la nuit, tout le temps.
Qui vous a amené à la musique classique?
Le hasard, peut-être. Non, mon frère aussi.
Une amie, voilà, votre
frère. Mon
frère
m'avait emmené au Symphonie de Beethoven, je faisais la gueule, mais je n'avais pas trop eu accès. Et puis un jour, j'ai reçu un cadeau comme ça par correspondance et j'ai eu accès. Et une fois que tu ouvres la porte, tu rentres.
Et en 98, Julie, on vous découvre avec votre premier grand rôle au cinéma. Vous vous souvenez, c'est l'examen de minuit.
Bah oui, j'ai écouté ça.
De Daniel.
Donc tout le monde fuyait autour. Non, mais j'écoutais que ça. Parce que, en plus,
la musique,
t'as tout.
La musique vous met dans un état. Voilà, c'est ça. La musique vous met dans quel état?
Ça dépend de laquelle, ça dépend du moment, mais celle-là, à cette époque-là, j'avais l'alarme tout de suite, tu sais, quand ils te demandent, moi j'avais 8 minutes, deuxième mouvement, et puis le premier mouvement, c'est hyper jovial, tu as envie de manger le monde.
Est-ce que vous aidez de la musique pour vous mettre dans un état particulier pour jouer?
Pour jouer?
Oui,
ouais,
pour
moi
jouer
j'en écoute tout le temps de toute façon. C'est
oui, non, c'est
une fois on m'a dit que...
Écoutez bien la question.
Pardon.
Si vous avez une scène à jouer, ouais, où vous êtes particulièrement de bonne humeur, ou au contraire une scène où vous êtes particulièrement triste, est-ce que là vous allez dans votre MP3, sais pas, et vous choisissez la musique qui correspond pour vous préparer à l'état?
C'est pour ça que j'ai mis Tchaïkovski, parce que le truc qui faisait pleurer à tout moment, c'était, je sais plus, vers 7 ou 8 minutes, plage 2.
Alors là, ça monte. Et ils disent action, puis comme ça, tu pleures. Enfin, t'essayes d'avoir une émotion pour...
D'accord.
Autre chose qu'un truc super personnel où tu penses à un truc atroce. Mmh. Moi, de façon, pleurer au cinéma, autant je pleurais beaucoup dans la vie, mais dès qu'il y avait une caméra, j'étais un peu, j'étais toujours de dos, je me mettais de trois quarts. Vous voyez, je suis
un peu.
Ouais.
Et alors, ce film, ça doit être une grosse histoire, parce que l'examen de minuit, initialement, vous deviez avoir un petit rôle.
Ouais.
Vraiment un petit rôle.
Je devais servir des bières au début, donc j'ai dit oui, bien sûr, j'adorais la bière, donc, je te fais de la figure, pas de problème.
Et en fait, ça vous a proposé le premier rôle.
Oui. Elle a dit, en fait, tu vas pas faire ce rôle-là, tu vois, moi aussi, tu vas faire Serena, elle s'appelait. J'ai dit, t'es dingue! Mais elle est tout le temps là. Non, moi, je suis pas actrice. Non. Je dis, moi, je suis bien là pour faire des bières. Enfin, je trouve ça marrant. Et moi, j'ai faisais des études, hein, quand même. J'ai pas l'air comme ça, mais.
Des études de quoi?
De philosophie. Ouais. Oui, bah, non, mais j'essayais de me renseigner sur quelques trucs. Je me disais, quitte à ne rien vouloir, autant savoir ce qu'ils ont dit avant moi, quand même. Kant, Spinoza.
Et la musique, vous avez attiré aussi pour chanter?
Oui, mais je chante alors très très mal.
Vous avez fait un duo avec Marc Lavoine?
Oui, non mais ça, oui. Mais j'ai une voix comme ça. Moi, je voulais chanter l'opéra, bah, y a personne. Hein. Je voulais m'entraîner, j'ai fait un stage, laisse tomber. j'étais pas très bonne.
Dans ces années-là, Thomas VDB, vous écoutiez...
Alors, c'est pas que j'écoutais à fond non plus en boucle, hein, parce que c'est la musique de la soupe au chou.
Bah oui.
C'est le moment où la Francine elle repart en moto avec le mec qu'elle a rencontré.
Mais
en
fait, non, c'est Vladimir Cosma.
Et non, c'est Raymond Lefebvre.
Ah, excuse.
Et pourquoi ça correspond à 98 pour vous?
Mais parce qu'en fait, à cette époque-là, je faisais de... je sais pas, non. En 98, j'écoutais que la musique de la soupe au chou. Dans mon Walkman, j'allais marcher mélancolique dans les rues de Tours où j'habitais à l'époque.
Ah,
c'était bonjour. Et, ouais,
et quand on a gagné la Coupe du Monde, j'écoutais ça.
Voilà, non mais ouais, non mais en fait non,
seul sur les gens en train d'écouter la soupe.
Non mais j'avais une passion pour Louis de Funès à l'époque et tous mes potes m'offraient des affiches de Louis de Funès, des affiches originales. Donc quand on rentrait dans mon appart à Tours, il y avait des affiches de Louis de Funès partout. Et donc pour qu'il y ait une sorte de bande originale un peu quand on rentrait dans l'appartement, souvent je mettais ça pour mettre un peu de mélancolie et je servais du thé avec un nuage de lait. Et
ma biche.
Et donc
ça fonctionnait pour draguer?
Ça a pas spécialement marché à l'époque. Je suis passé à d'autres genres musicaux derrière. Non, mais en fait, c'est vrai. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est l'époque où j'ai commencé en fait la comédie parce que j'ai fait beaucoup d'improvisation et c'est là que j'ai commencé le théâtre de rue aussi. Et vraiment, De Funès pendant très longtemps a été ma référence comique avant que je découvre d'autres univers.
De Funès et Laetitia Gaillet qui présentent les infos.
De Funès et Laetitia Gaillet, parce qu'effectivement, je faisais de l'improvisation à Tours avec Laetitia Gaillet qui présente les infos sur France Inter tous les jours.
Et avant de faire cette ligue d'impro, vous êtes passé par le conservatoire, formation un peu plus classique qui vous a pas complètement fasciné?
Non, parce que je suis arrivé en me disant, déjà, c'était hyper académique en fait. Mmh. Je pensais vraiment qu'on allait s'amuser au conservatoire. Et donc, et la prof, quand je suis arrivé, elle me dit, toi, tu vas travailler Britannicus. Et j'ai dit, non, j'ai pas très envie de retourner en cinquième, là, tu vois, vraiment. Et donc, elle me l'a fait travailler en me disant, elle m'a dit, non, mais c'est pas du tout ça. Elle me dit, tu vas revenir sur scène et tu vas le faire comme si tu étais du coton. Et je dis, mais de quoi me parle-t-elle? Et donc, 3 mois après, j'ai arrêté le conservatoire. Parce que vraiment, c'était pas un langage pour moi, en fait.
En 2003, Julie Depardieu, vous écoutiez...
Ah bah oui, voilà. Je suis partie, hein. Le violon qui donne la voix, le violon triomphant.
Et ça,
un violon...
Un violon, ça peut vraiment faire pleurer très facilement.
Bien sûr, tout dépend du violoniste. Ça, c'est très bon, ça.
Non.
C'est qui? Si. Non, parce que moi je fais des quiz hein, toute la journée, donc.
C'est qui?
J'ai demandé Franceschetti.
Voilà, c'est ça.
Bah oui.
C'est Zino Franceschetti. Zino.
Ouais, mais les violistes, les morts sont très bons aussi. Hein.
Le concerto violon.
Enfin, les enregistrements.
Camille Saint-Saëns, numéro 3.
Et on est en 2003, ouais. Et vous faites vos débuts au théâtre, Julie?
Ouais, j'avais peur.
Mémoire de deux jeunes mariés. Ouais. Et là encore, quand on vous adresse le texte, vous rappelez en disant. Vous êtes vraiment sûr parce que c'est vraiment pas moi, quoi.
J'ai dit, vous avez qu'à prendre Isabelle Carré, je pense qu'elle sera mieux.
C'est dingue.
J'ai dit ça.
C'est dingue de scier la branche comme ça tout le temps.
Ah bah, je scie tout le temps la branche.
Mais vous avez si peu confiance en vous?
Bah écoutez, maintenant c'est trop tard, hein. Ouais, je pense que je suis comme ça. Donc autant le prendre avec humour, hein, c'est pas grave.
Non mais j'entends bien, mais il y a bien un moment où sincèrement au fond de vous-même, vous vous sentez capable de faire quelque chose. Vous n'êtes pas en permanence en train de vous dire, oui, je n'y arriverai pas.
Oui, mais souvent par précaution, je dis non. C'est mon principe, comme ma tante. Tu lui demandes un
c'est
truc.
Pas saoulant, c'est non. Pas saoulant pour les gens autour de vous?
Si, sûrement, mais regardez, il y en a quand même deux, trois. autour de moi.
Qui reste.
Oui, mais je dis souvent non avant de dire oui. Ma tante fait pareil. Vous savez.
Mais là, c'était quoi le track aussi de la scène?
Ouais, parce que je savais pas comment. Je savais pas. J'avais jamais fait. Hein. J'ai fait une scène à la fac parce que j'étais à la fac. En art du spectacle et bon, ça n'intéresse personne, mais je le dis quand même, philosophie. Il y a un moment, faut prendre une UV pratique. Il y a un moment, on m'a dit, ma vieille, tu vas jouer. Je dis, ah non. Parce que moi, je m'appelle Depardieu, c'est pas facile. Je me disais, ce n'est pas mon, voyez, donc j'ai joué une scène. Enfin, au début, j'ai fait la mise en scène. Mon acteur est parti. Merci beaucoup. Et donc, je l'ai remplacé. J'avais fait un couple, donc, d'homosexuels, puisque j'avais fait l'homme. J'avais emprunté un cigare à José Dayan. J'avais joué qu'une fois, quoi. Et au théâtre, ça me faisait flipper. J'avais trop peur. Et donc, j'écoutais ça, comme une dingue. Le violon.
Thomas VDB, vous écoutiez à l'époque en 2003. J'adore Terry Jacks. J'adore
Freeze de Jacques Brel, c'est ouais, ça, exactement.
Moribond.
Ouais. Et en fait, ça, c'était le générique de fin de mon spectacle de rue que j'ai joué pendant des années avec mon camarade Rodolphe Coutouis, qui est comédien à Tours. Et donc, ce morceau était le générique de fin de ce spectacle que j'ai joué pendant longtemps, qui s'appelait Freddy Coup de Boule.
Le spectacle de rue, pour comprendre comment ça se présente, entre guillemets, vous êtes réellement dans la rue.
Alors oui, c'est pas non plus, je faisais pas la manche à la sortie des cafés, c'est vraiment non, c'est un spectacle. Moi le spectacle de rue, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir à jouer.
Mais racontez comment ça se passait. Ouais.
Ben en fait, un jour j'habitais à Paris, et j'ai mon pote Rodolphe qui m'appelle, qui me dit "Eh, tu veux pas qu'on fasse un spectacle tous les deux à Tours ?" Ouais, je parle comme ça, il parle un peu du nez, il me dit parce qu'en fait, il avait une idée de spectacle, il me dit "Attends, j'ai un plan pour aller jouer dans la galerie." Bon, en fait, il me dit "Dans la galerie commerciale de Carrefour à Tours." Et donc je dis Carrefour, les gens quand même disent bien, on va jouer à Carrefour. Et donc on a parce que je voulais amener un peu de glamour dans cette émission aujourd'hui. Oui, oui, je vais raconter les spectacles que j'ai créés dans la galerie.
C'est bon d'être pote avec vous en fait.
Ouais. Non mais en fait et en réalité, on a créé un spectacle une première fois en impro dans une galerie commerciale et qu'on a joué ensuite dans des centaines de festivals parce qu'on l'a joué pendant 16 ans ce spectacle.
Ça se fait d'une manière illégale. Comment ça se passe?
Pas du tout. Non, il y a vraiment un réseau dans le théâtre de rue.
On est autorisé.
On s'organise régulièrement. Voilà, on n'arrive pas à l'improviser sur une place. Le spectacle. Enfin, il y a des gens qui font ça, mais nous, c'était pas dans ce cadre-là. Et moi, vraiment, le théâtre de rue, comme je disais, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire ça de toute ma vie, en fait, de faire de la comédie, on va dire, parce que c'est là que j'ai rencontré vraiment des gens, des premiers génies comiques. Je les ai rencontrés en théâtre de rue. Je pense à des gens comme Fred Touche, à Stéphane Fillock. Alors, s'il y a des gens qui fréquentent les festivals de théâtre de rue, c'est des noms qui leur parlent. Arnaud Aymar, je sais qu'il a travaillé avec le compagnon de Julie qui est là récemment sur son album. Et donc, et voilà. Et moi, le théâtre de rue, j'ai joué des centaines de fois en rue. Ce qui est génial en théâtre de rue, c'est que, en fait, des fois, on joue devant un public qui ne sait même pas qui fait partie du public, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, je me souviens un jour, on jouait à Montréal avec mon camarade. Et bon, pour une raison X, à un moment, dans spectacle, il y avait un moment, on jetait des chaussons dans le public. Bon, il y avait un truc, on jetait des chaussons. Et je me souviens, moi, je faisais le présentateur et mon pote faisait le connard à côté qui jetait les chaussons. Et je vois un mec à un moment, au loin, hyper baraque, en train de boire une bière, mais qui était pas du tout dans le public, mais il était pas loin du public, donc il savait pas qu'il allait être partie prenante du spectacle. Et vraiment, le chausson, mais lui déglingue sa bière qui lui tombe dessus. Et le mec, d'un seul coup, il se retrouve arrosé de sa bière et il nous arrive dessus en hurlant. Et le mec, il commence à monter sur scène et il commence à me molester comme ça. Et c'est ça que je trouve bien dans le théâtre de rue, c'est que c'est quand même le seul genre de théâtre où on peut se faire taper par le public. Ce qui n'arrive pas souvent, de se faire taper par les gens du public.
C'est l'interactivité.
L'interactivité.
Poussée à son extrême. En 2004-2005, Julie Depardieu, vous écoutiez.
L'amour est un bouquet de violettes.
Roberto
Alagna. Bien sûr. Là, j'ai fatigué tout le monde aussi. Hein. Toute la journée. J'avais troqué Beethoven contre lui.
Et à cette époque-là, Julie, contre toute attente pour vous, j'imagine, vous récoltez 2 Césars.
Oh, ouais.
César du meilleur acteur.
Quelqu'un qui n'arrête
féminin,
pas de dire, c'est pas pour moi, j'y vais pas, c'est pas pour moi.
Gênée, hein.
Et bah César, la meilleure actrice dans le second rôle pour la petite Lily.
Ça devient humiliant, ces parallèles entre sa carrière et la mienne, là. Parce que vraiment, elle a des Césars, vous étiez dans la rue.
Non, mais le théâtre de rue, c'est super fort. Non, mais voilà, je m'y attendais pas du tout et je pense que.
Non, mais 2 Césars.
Ouais.
Non mais 2,
ouais,
même rien. 1 déjà, c'est vrai.
Et moi j'étais vachement gênée.
Vous l'avez la légitimité quand on a 2 Césars? On se pose plus la question de savoir est-ce qu'on est fait ou pas pour ce métier.
Mais non, mais ça me gênait parce que par rapport à tous ces gens qui le voulaient, moi si vous voulez, j'ai toujours voulu modérément réussir déjà. Et des prix encore moins, j'en ai jamais tellement eu. Hein.
Et le fait que sur le César il y a marqué Isabelle Carré, ça vous gêne pas?
J'aurais presque préféré, mais c'est vrai, j'étais gênée. Mais vous voyez, après, c'est mon tempérament. C'est comme hier, on m'a fait dire des conneries à la radio. Je tiens
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont dit n'importe quoi, c'est pas vrai ce qu'ils m'ont fait dire. Ils ont dit, donc vous avez deux enfants avec Philippe Catherine, ça les gêne pas, vos enfants, d'avoir des parents comme vous? Et ben, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je suis comme bien la fille de Gérard Depardieu, je suis encore là quand même, enfin ça va.
Il y a plus grave.
Ouais, et ils ont dit, mon père, la honte, il me foutait la honte. J'ai dit que quand t'es un enfant, t'aimes bien juste être normal et pas que les gens s'arrêtent de respirer parce qu'ils croisent un mec qu'ils connaissent. Voilà, j'ai juste dit ça, que c'est la honte dans certains milieux. Quand t'es un enfant, t'as juste envie d'être invisible.
Normal, entre guillemets, voilà, normal, ouais, c'est ça. Et pas spécialement.
Tout le monde ne regarde pas tes parents dès qu'ils font un geste.
Quoi. Fille 2 et fils 2. Et ça a été mal interprété?
Ouais, ils ont dit que, genre, mon père l'a honte.
Non, oui, mais attendez, j'ai passé Julie, vous arrêtez pas ça. C'est sûrement un journaliste professionnel qui a fait un titre sur Internet. Ça s'appelle Putaclic. C'est uniquement pour que les gens aillent cliquer dessus, lisent l'article en disant qu'est-ce qui se passe.
Quoi.
C'est pas vrai. Mais c'est vrai
tombé. Vous arrêtez pas ça parce que sinon là.
En plus, j'avais pris un pseudo. Vraiment, c'est pas.
Sinon, le même mec là maintenant va faire un autre article en disant elle ne reconnaît pas avoir dit qu'elle avait honte.
Voilà. Non, mais les Césars, je pense que. J'étais pas la meilleure personne pour les recevoir, vous voyez. Il y a un moment, il y a un temps pour tout, il faut aussi savoir recevoir. Moi, j'étais complètement flippée. Hein.
Thomas VDB, vous écoutiez à ce moment-là une BO.
Garde tes yeux et tu me
j'écoutais pas que ça.
Vous avez
vraiment l'époque, ça, déjà, on dit.
On est en 2000, je sais plus.
4.
Non, en fait, oui, j'ai dû me tromper dans 5. Les années. Hein, mais là, c'est parce que ça, c'est la musique de Peter et Elliot le Dragon.
Oui, oui.
Voilà. Alors, donc, que j'ai écouté peu en 2004 quand même. Mais donc, mais non, mais en fait, non, je sais pas.
C'est vraiment une vie pourrie, en fait.
Une discothèque de merde, vraiment. Non, mais en fait, j'ai choisi ce morceau, je sais, en fait, c'est par rapport à Julie, en fait. C'est pas vraiment de rapport avec. C'est parce qu'en fait, ce morceau, mon fils est littéralement obsédé par Peter et Elliot le Dragon. Et en fait, il y a une histoire dans Peter et Elliot le Dragon où il y a un personnage qui s'appelle Nora et il y a son mari qui doit revenir, qui est un pêcheur égaré, qui est un marin égaré dans la mer et qui revient à la fin de l'histoire. Et en fait.
Et le marin, c'est qui?
Et le marin, ben en fait, moi, je suis un marin qui revient dans Alexandra L. Oh, tu sais, il y a un rapport. Je fais des rapports comme ça.
Il est intelligent, tu vois.
Mais c'était pas en 2004, ça, c'était en 2019.
Non, mais tu vois.
J'ai fait une erreur de 15 ans, en fait. Mais bon.
Okay.
Et donc, en fait, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, le personnage que je joue dans la série s'appelle Samuel.
Ouais.
Et donc, comme dans Peter Elliot le Dragon, il y a un marin qui disparaît, qui revient, qui s'appelle Paul. J'ai appelé le scénariste avant de tourner, j'ai dit pour mon fils, est-ce que tu crois que ce serait possible
de changer le prénom du personnage
et qui s'appelle pas Samuel, mais qui s'appelle Paul? Et il m'a dit, non, c'est compliqué. J'ai dit, mais c'est pas grave, je le passerai à France Inter quand j'irai.
On va continuer de parler d'Alexandra L, pardon, cette série où vous êtes médecin légiste, je le rappelle. Aux côtés, et il faudrait quand même le préciser parce que vous n'êtes pas seul dans cette série.
Non.
Il y a Sophie Le Tellier aussi.
Sarah
Martins, ouais. Elles sont vraiment très très drôles, vos copines.
Xavier Gelfi.
Médecin légiste. Xavier Gelfi qui joue le rôle de Théo. Émilie Le Hureau qui est l'ado. Adolescente, justement, la fille de Bernard Irles, qui s'appelle Iggy, comme Iggy Pop, elle le dit, elle insiste là-dessus, présente dans cette série Alexandra, elle, dont l'épisode, le prochain épisode aura Thomas VDB qui débarque la semaine prochaine. Perrine Rogiès, bonjour Perrine, bonjour mon capitaine, je sais pas comment je dois dire, mon capitaine?
Non, capitaine. Tout
capitaine,
court.
Pas mon.
Non, si on n'est pas militaire, on peut pas dire mon, c'est ça?
Non,
il faut être militaire pour dire mon.
C'est
très bien. Et très possessif, de toute façon.
Vous êtes diplômé de thanatologie. Thanatologie, c'est l'étude des morts?
L'étude des signes cadavériques, oui.
Ah.
Pourquoi vous dites pas mort?
Parce que c'est pas l'étude des morts, c'est vraiment l'étude des signes cadavériques qui sont visibles sur les cadavres, sur les scènes de crime, et ensuite, lors de l'autopsie, effectué par le médecin légiste.
Et vous n'êtes pas médecin légiste?
Non, je ne suis pas médecin légiste, je suis policier.
Policier qui analyse les signes sur des cadavres pour trouver des pistes, c'est ça?
Alors effectivement, nous allons sur les scènes de crime et nous effectuons les premières constatations sur les cadavres. Et ensuite, la victime est transportée à l'Institut médico-légal et sera autopsiée donc par...
Dans cette étude-là,
tout le monde est très calme.
Parce qu'on a tous, je pense, des rapports assez particuliers
avec la police,
avec la mort, avec la mort, avec un cadavre, et que vous avez dû en voir des tonnes.
Oui, alors c'est vrai que du coup, je vais paraître un petit peu technique et clinique parce que après Julie et Thomas qui sont très fantasque et qui pratique beaucoup d'autodérision, je me dis que...
Non, bah, vous inquiétez pas, non,
capitaine, la transition est compliquée, mais...
Elle est compliquée, mais en même temps, c'est la toile de fond de cette, de
ouais,
cette série. Et de savoir, justement, pour en revenir à l'expression, au gimmick employé par Julie Depardieu dans la série, faire parler les corps, ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible? Est-ce que l'on peut faire parler des corps?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que qu'il s'agisse d'une scène de crime ou ensuite l'examen du corps en autopsie, l'idée c'est d'avoir une idée donc de la, enfin de pouvoir déterminer la cause du décès, le délai post-mortem, donc depuis quand l'individu est décédé, et d'avoir un maximum d'indications, savoir si c'est une mort, si c'est un suicide, une mort naturelle, une mort criminelle. Et,
Est-ce qu'on va aller plus loin comme le fait la série, de se dire on a trouvé tel produit, par exemple, sous les ongles, donc c'est quelqu'un qui était plutôt dans tel dans un
métier,
milieu voilà, à la campagne, à la ville, où il était en contact avec tel matériau, où il travaille plutôt dans tel domaine, parce que ce genre de produit ou ce genre d'extrait chimique n'existe que là-dedans.
En fait, faire parler les morts, c'est non seulement avoir vraiment une idée et pouvoir donner des conclusions quant à la cause du décès, mais c'est également s'intéresser à la vie, en fait. Faire parler un mort, c'est également connaître les habitudes de son vivant, son organisme, ses habitudes alimentaires, ses habitudes de boisson, ses habitudes médicamenteuses. Et effectivement, savoir à quelle catégorie professionnelle il appartenait, enfin... C'est intéressant, c'est...
Est-ce que c'est de l'analyse que je qualifierais de chimique, je ne sais pas si c'est le mot approprié, c'est-à-dire de relever justement un cheveu, de relever une partie du corps, faire pratiquement des biopsies, ou est-ce que c'est aussi la position dans laquelle le cadavre se retrouve sur la scène de crime, c'est aussi l'endroit où ça se passe, c'est aussi de savoir si tel membre est dans une position totalement tordue, totalement...
Tout à fait, en fait... tant sur la scène de crime que ensuite lors de l'examen interne du corps, ça nous indique énormément de choses. Sur la scène de crime, la position du corps est importante, avec une interaction de tous les éléments environnants justement du cadavre, la manière dont il est habillé, l'endroit où il est décédé, et c'est tout autant de facteurs et d'informations qui vont nous donner des indications précises et qui vont être évidemment complétées par l'examen effectué par le médecin légiste.
Alors vous êtes capitaine de police, votre métier étant d'abord de vous occuper entre guillemets de ce cadavre, de l'analyser, et jusqu'où va votre travail? Est-ce que ça va jusqu'à la résolution de l'enquête et de l'investigation, ou est-ce que votre rôle est uniquement j'analyse le cadavre et je donne ça à un inspecteur qui lui va aller sur le terrain voir les éventuels coupables?
Oui, tout à fait. Sur les scènes de crime, nous sommes avec le service enquêteur, mais nous, à l'identité judiciaire, nous effectuons tous les prélèvements de traces et indices, et ensuite nous effectuons des analyses en post-production à notre service, comme pour l'examen des traces digitales. Mais sinon, ensuite, c'est à charge pour le service enquêteur d'effectuer tout le travail vraiment d'enquête. Et ensuite, nous nous rendons à l'IML avec une assistance...
C'est quoi l'IML?
L'Institut Médico-Légal.
Oui, mais alors, je peux poser des questions.
Voilà, le nouveau terme, en fait, depuis 1923. Autrefois, on parlait beaucoup des morgues. Aujourd'hui, on parle des instituts médico-légaux. Et là, il y a une assistance au médecin légiste pour les photographies et des éventuels prélèvements. Donc, en fait, c'est un...
La différence entre vous et le médecin légiste, en fait, qu'est-ce que vous faites de plus que lui?
Alors nous allons sur les scènes de crime et nous faisons une recherche de tracés indices sur le corps, qui pour moi est un indice, en fait.
Ce que ne fait pas le médecin légiste, qui lui attend à...
Alors
à
certains
la
médecins légistes se rendent sur les scènes de crime, ce qui est peu le cas quand même à Paris, au vu du nombre important de décès qu'il y a à Paris. Le médecin légiste, lui, se concentre exclusivement, et c'est déjà un travail très important, sur le corps, sur le cadavre.
C'est les empreintes et compagnie.
Voilà, tout à fait, oui.
Et il y a un moment où on est protégé ou du dégoût que l'on peut avoir, parce que c'est quand même quelque chose de particulier de travailler sur des cadavres.
Alors moi, je ne parlerai pas de dégoût. En fait, je pense qu'il
non,
faut
là,
d'abord
je parlais
être...
de
vous.
Non, oui, oui.
Est-ce que Nagui vous dégoûte?
J'ai pas spécialement... Non, j'ai pas spécialement envie. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie.
En fait, c'est un métier qu'il faut faire.
La tête quand on voit un cadavre.
Il faut faire vraiment avec passion et vraiment voir le côté technique et surtout le côté résolution de l'enquête et pouvoir donner une réponse aux familles. Et il y a rien de mieux que de pouvoir identifier l'auteur d'un crime. Et là, c'est un travail, en
fait. D'accord, mais vous vous protégez de toute émotion par rapport à...
Bah, vous voyez des choses extrêmement violentes, des fois.
Oui, alors après, on a toujours l'impression qu'il nous faut un échappatoire, une thérapie pour pallier à tout ça. Moi, je pense que... moi, ça fait une vingtaine d'années que je pratique ce métier. Effectivement, il y a des scènes de crime plus violentes que d'autres. Mais là, ce qui est agréable dans la série de Julie et Thomas, c'est qu'on a un médecin légiste un peu fantasque, mais également, ça change. Parce qu'autrefois, dans les séries où il y avait des médecins légistes, c'était toujours un peu des hommes toujours un peu âgés, un peu isolés, pas forcément avec une personnalité étoffée. Là, on a quand même une femme, effectivement, qui est un petit peu fantasque, mais qui a
qui
également,
qui est passionnée,
et qui fait ça justement avec une petite pointe d'humour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins légistes femmes qui ça change, en fait. Cette série change
le regard que l'on peut avoir sur ce métier. Vous avez écrit un livre passionnant qui s'appelle L'aveu des indices, manuel de thanatologie, donc l'étude des cadavres, où il y a évidemment tous les indices que l'on peut voir sur les corps, mais vous parlez aussi de la manière dont du danger d'un le bébé secoué, par exemple, c'est ça qui peut être extrêmement dangereux, les sévices corporels faits aussi sur les enfants, la maltraitance, oui. Tout ça fait partie aussi de la manière dont on peut faire parler un corps en voyant les traces et ce qui se passe.
Oui, tout à fait. Qu'il s'agisse d'une mort pédiatrique ou de la mort d'un adulte, il y a toujours des... en fait, la victime livre de précieux renseignements à nous d'abord sur les lieux, hein, sur les scènes de crime, et ensuite le médecin légiste, va compléter complètement, et ses conclusions vont être vraiment très importantes pour l'enquête.
C'est publié chez Payot. Merci beaucoup, capitaine, d'être venu.
Je vous en prie, merci.
Perrine Rogier-Tubert. J'avais oublié d'aller jusqu'au bout de votre nom de famille, pardon. Bonjour, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, et vous?
Tranquille.
Oui.
Bien. Éric Zemmour et Nutella s'affrontent. Il y a un problème entre
les deux. Nutella a déclaré arrêter la diffusion de ses pubs pendant les émissions où Éric Zemmour officie. Ses soutiens en retour appellent au boycott de Nutella. Il lèche de la confipote devant le siège de Nutella en criant Vive la France, parce que c'est difficile de crier et de lécher en même temps.
On est extrêmement en retard, mais Thomas VDB m'a dit qu'il était pote avec Laetitia Gaillet, qu'on pouvait se le permettre.
Bonjour
Daniel Morin, bonjour Tanguy Pastureau, Guillermo Guise,
bonjour,
et notre invité Julie Depardieu et Thomas VDB. Alexandra, l'épisode qui est passé hier a réuni 4 millions de téléspectateurs, un énorme carton. La semaine prochaine, la pression est maintenant sur les épaules de Thomas VDB, parce que il va se dire où je suis chat noir ou pas, quoi.
Il arrive à la toute fin, ce serait quand même dégueulasse.
Les gens peuvent zapper juste à la fin.
Mais maintenant, les gens savent.
4 millions tout le long, et au moment où Thomas VDB arrive,
bim, 250.
Ça décroche.
Ça s'appelle.
La scène est très drôle, en plus, quand le personnage de Thomas arrive, elle est super, la scène.
Et puis en plus, je trouve que l'idée et des scénaristes et du casting et de la production de vous mettre ensemble va très très bien. Et extrêmement crédible aussi d'être un couple.
À suivre.
À la scène. Je ne voudrais pas mêler de votre...
En plus, je connais très bien sa femme. Et Jenny. Audrey Vernon.
Ah oui.
J'adore.
D'accord.
Absolument. Donc...
Puisque on le dit, elles ont fait de la rando-diète ensemble.
On s'est rencontrés.
Racontez-nous.
Non, mais c'est trop personnel. Un jour, on fait de randonnée, parce que moi j'aime bien les stages, les conneries, je suis comme ça, je suis une actrice qui aime les stages. Donc j'ai dit, tiens, rando-diète, qu'est-ce que c'est que ce truc? Monique Poupard, génial.
Rando-jeune, quoi, c'est
ouais,
ça?
Ouais, tu manges pas et tu marches.
Super.
En Bretagne, sous la pluie. Et t'apprends des tonnes de trucs.
Et t'es fatigué.
Non, t'es pas du tout fatigué. C'est digéré qui fatigue. Quand tu manges pas, t'as la frite.
Ah oui?
Ah oui. Non, merci madame.
Et donc Audrey était...
Et pendant combien de jours ça?
Une semaine. Et je m'inscris.
Une semaine sans manger et une semaine en marchant.
Ouais, mais
on mange un petit peu quand même.
Non.
Tu meurs une semaine.
Tu bois des bouillons quand même.
Alors là, vous êtes complètement has-been.
Non. Audrey m'a dit que tu bouffais des caramels en loose.
Ouais, c'est vraiment, j'ai triché un peu. Non, mais c'est vrai.
Merci Audrey.
J'avais un truc dans ma bagnole, dans ma voiture, j'avais oublié. Et c'est vrai que quand tu manges pas et que tu manges les deux bananes qui étaient au fond de ta voiture, bah t'as très mal au ventre. C'est une erreur. Mais j'ai...
Et vous faites ça quoi, une fois par an?
Ben non, là je l'avais fait.
Par semaine.
Et j'étais tôt. Non, là ça fait au moins 3 ans. Il a quel âge ton enfant?
Ben oui, parce que ma femme est revenue enceinte de la rando-diète. Mais en fait, c'était moi qui l'avais mis enceinte.
T'es sûr?
Mais on savait pas qu'elle était enceinte.
Elle savait pas.
Et donc, elle a fait une semaine de jeûne en étant enceinte.
Alors, elle a
c'est pas grave, ça.
Non. Mais le bébé va très bien.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 3 ans et demi.
Tu vois, c'était il y a 4 ans.
Il y en a qui boivent aussi.
On l'embrasse au passage. Voici Tanguy Pastureau.
Yes.
Tanguy, hier vous étiez stressé.
Oui, parce que vous savez ce que c'est, j'ai beau être bon, régulier, osons-le, un roi de la vanne. Je dis à moi-même ce que, tout ce que personne ne m'a jamais dit ici, comme Tanguy, tes fesses, ça vous me l'avez pas dit, Nagui.
Non, je te confirme.
J'ai beau être bon, donc quand dans l'émission sont invités des gens drôles, je me dis toujours qu'il faut être exceptionnel pour arriver à se distinguer. Demain on a Hubert Reeves, je m'en fous. Trois blagues de bon, il va se marrer. 2 minutes plus tard on jouera Je te tiens par la barbichette, je lui dirai alors à Tchoum, ils sont où les 6 autres nains, enfin bonne ambiance. Mais là, Thomas VDB, drôle, Julie D, drôle. Nagui ensemble vite, bon, drôle, essaye, il y a la pression. Donc j'étais aussi stressé que le fœtus de Nabila quand il réalise que ses deux parents sont des stars de télé-réalité et qu'il se dit hors de question que je sorte de là si à la sortie il n'y a pas minimum la chaîne Non-Stop People en live avec Castaldi qui coupe le cordon. Et quand je suis stressé, que fais-je? Mais non, pas ça, Guillermo, mon Dieu, la perversité de cet homme. Il a l'enveloppe corporelle d'Enrique Iglesias mais le mental d'Harvey Weinstein. Non, quand je suis stressé, je regarde mon smartphone, les alertes tomber. Et là, s'est affichée une alerte de BFM TV, la chaîne sur laquelle Alain Duhamel remet ses dents avant de livrer ses analyses politiques. Il était écrit « Nutella ne diffusera plus de publicité durant les émissions télé d'Éric Zemmour ». Donc j'ai réfléchi, je me suis dit « Si ça se trouve, Éric Zemmour, dans un discours, a accusé Nutella qui ne vend que de la pâte chocolat noisette de faire du racisme anti-chocolat blanc, ça les a fâchés. D'autant qu'ils ne vendent pas non plus de pâte à tartiner hétérosexuelle de plus de 50 ans. Et pourtant, ce serait une bonne idée. Hein, de la pâte connectée qui, au petit-déj, mettrait hurler hors de question que je m'étale sur une tartine. Il faut vraiment que je m'inscrive au concours Lépine.
Ah, oui, oui.
Bref, je vais sur le site de BFM, je lis l'article, ce que personne ne fait. 90% des gens se contentent du titre. À BFM, une sirène a retenti, quelqu'un a crié « Attention, un lecteur, ça doit être un vieux ou un chômeur !» ou François Bayrou qui est les deux. Et ils ont demandé à un stagiaire de 3e de torcher vite fait un article contre 3 stickers de licorne. Et là, qu'apprends-je? Qu'un collectif citoyen s'est dit « Zut de flûte, on ne peut pas empêcher Zemmour de s'exprimer, donc on va taper au portefeuille des médias qui l'emploient. » En gros, ils ont regardé des Zemmour-Noleux sur Paris Première, ce qui avait comme pub avant, ils ont vu Nutella, un des activistes a dit j'adore cette pâte onctueuse qui coule sur le palais, un autre a répondu concentre-toi vieux, c'est pas le sujet, et ils ont harcelé Nutella sur les réseaux sociaux en les insultant, des messages très durs hein, comme ta mère c'est de la pâte à tartiner de la marque Repère ou vive la team caramel au beurre salé hashtag à poil Chris Prolls. Nutella a répondu sur Twitter, nous ne savions pas à quel moment serait diffusé le spot, parce qu'ils vendent ça comme ça et ensuite la chaîne est libre. Aussi bien, ça tombait au milieu du téléfilm érotique de fin de semaine, Les 12 vies de Pénélope, ils ne contrôlent rien. Alors même que Pénélope, juste avant la coupure pub, aurait pu être en train de lécher de la margarine, concurrent de Nutella au petit déjeuner.
C'est violent tout ça. Nutella a ajouté qu'ils arrêtaient la pub avant, pendant aussi Zemmour et Nolo.
Oui, et là on réalise la puissance de la publicité parce que François Hollande sur Inter il y a 7 jours qui dit Zemmour c'est pas bien. On lui répond oui c'est ça, sinon ça va la vie fanfan. Mais Nutella annonce le boycott d'une émission, ça fait la une de la presse depuis hier. Parce que l'annonceur c'est lui qui décide de ce qu'on voit ou non sur une chaîne. Si demain les couches Téna et les montes-escaliers Stana décident de boycotter les Feux de l'amour, le feuilleton s'arrête et on n'aura pas la conclusion de la série prévue par les scénaristes en juin 2080. C'est l'avantage du service public. Si moi, ici, je dis « fuck la vache qui rit » ou « 7LM, on t'en prend de l'argent ». Bref, il se passera rien. Hein, Laurence Bloch, directrice de la station, viendra au contraire me dire « sois encore plus punk, Pastureau, défonce-moi ma bibelle. 5 ans de mes petits-enfants font des boules avec les emballages en cire et me les balancent dans le dos, j'en peux plus. Mais on peut tout dire ici. Dans le cul, le groupe LVMH, Publicis, fils de chien, Lagardère, si tu savais tes entreprises, où on se les met. Voilà, à noter, bah, tout le monde reprend. La station de gauche pure. Révolution, je suis bien, tout ça. Bon, à noter que les soutiens de Zemmour appellent en retour à boycotter Nutella. Nadine Morano, par exemple, a écrit « Je ne partage pas les analyses de Zemmour, mais j'aime la liberté d'expression. Plus jamais de produits Ferrero chez moi. » Ça veut dire qu'à Noël, si un neveu lui offre une boîte de mon chéri, Ferrero, elle va lui les jeter à la gueule en hurlant « Vive la liberté !» Les petits vont appeler l'HP. 5 minutes plus tard, le raid tente de l'aider le jeu de chez elle, en plaçant dans sa porte des pots de confiture et en criant « Vous pouvez y aller, c'est pas Ferrero, c'est bonne maman !» Bref, c'est Nutella qui va décider qui a ou n'a pas le droit de parler. À titre personnel, bon, j'aurais préféré une marque plus éthique, hein, parce que les mecs jouent les héros, mais leur truc c'est blindé d'huile de palme, la déforestation, ouais. Ça tue les grands singes, c'est pour ça que jamais vous ne voyez un orang-outan bouffer du Nutella. Hein. Et récemment, un documentaire de la BBC accusait Nutella d'acheter des noisettes à des producteurs turcs faisant bosser des enfants. Hein, la Turquie produit 70% des noisettes de de la planète. Erdogan, c'est l'équivalent de tic-tac, mais sans le charisme. Voyez sur France Inter, je peux dire ça à propos de Nutella parce que les annonceurs ne peuvent rien contre nous. J'invite donc aujourd'hui Éric Zemmour, Dieudonné et Alain Soral à rejoindre la bande originale.
Non,
on n'aura plus
un
invité, mais on s'en fout. On est des punks et fuck la vache qui rit.
Non, Robert, on peut dire fuck Zemmour, fuck Dieudonné.
On peut dire ce qu'on veut en fait.
Non, non, on peut dire ce qu'on pense.
Ah, mais oui.
Alexandra, le nouvel épisode passera la semaine prochaine sur France 3, 21h05, mardi prochain, avec
Thomas VDB à la fin.
Thomas VDB, c'est l'événement. Thomas VDB viendra sur les suivants. Il y a également, j'ai oublié de la citer, pardon, Andrea Ferréol, qui joue le rôle de votre maman.
Oui.
Dans la série, donc la grand-mère d'Émilie Le Huro qui joue Iggy, la rencontre entre les deux aussi est assez croustillante. Je rappelle Sophie Letellier, Sarah Martins, Xavier Gelfi, Bernard Hirless, Julie Depardieu, donc et Thomas VDB dans cette série extrêmement bien écrite, bien réalisée. Vous avez cité tout à l'heure
plaisante à regarder,
le réalisateur, voilà,
ouais.
Exactement. Et Elsa Marpeau en est l'auteur. Juste, est-ce que vous parlez beaucoup avec l'auteur Julie Depardieu, Thomas VDB, vous échangez? Alors, on comprend que dans la création de votre personnage en moment, vous êtes très proche des scénaristes, Thomas.
Non, moi je l'ai fait, j'ai pas encore rencontré Elsa, la scénariste.
Bah, déjà, vous voulez changer le nom de votre personnage?
Oui, non, mais j'en ai parlé au réalisateur, mais non, je l'ai fait, j'ai vraiment insisté au réal pour la féliciter et la remercier, parce que vraiment j'ai eu l'impression d'un écrin pour ce que j'ai à jouer dans cette série, donc mais j'ai pas encore rencontré la scénariste.
Vous continuez Bon Chien Chien?
Absolument, je joue mes dernières dates de mon spectacle jusqu'à la fin du mois de décembre. Je joue à Deauville et Enghien-les-Bains début novembre.
Il y a Toulouse,
la classe, non?
Pas mal, Toulouse,
26 octobre.
Enghien-les-Bains, 9 novembre Deauville, ensuite Clermont-Ferrand, Romans-sur-Eure, Lyon, Saint-Étienne, Nantes, Plougastel, Besançon, Tarbes, Lorient, Laval, Nancy. Il y a beaucoup d'autres dates jusqu'à fin décembre.
Absolument.
Vous jouez et le DVD sortira le 6 novembre.
Absolument.
Quant à vous, Julie Depardieu, vous avez entamé le tournage du prochain film d'Anna Cazenave-Cambé, c'est ça?
C'est vrai.
De l'or pour les chiens. On retrouve le Bon Chien Chien et de l'or pour les chiens.
T'es pas dispo, Isabelle Carré?
Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Qui êtes-vous dans ce film?
Oh bah, c'est un film qui n'est pas sur moi. Moi, je fais la mère du personnage qui va se prendre des murs aussi. Une jeune fille qui part de chez elle, pleine de bonnes intentions. Et puis bon, bah, mais une jeune réalisatrice qui m'a surpris parce que elle sait ce qu'elle veut. Elle se laisse pas influencer comme tant d'autres. Ah oui, ah bah oui, je peux faire ça aussi. Tu vois, il y a un moment on peut tout faire, mais il faut choisir. C'est le choix. Hein. Il y a un moment c'est le point de vue. Et donc cette jeune femme qui est très jeune, je crois, et a ça déjà.
Avez-vous envie de réaliser vous?
Pas du tout. Pourquoi? Je sais jamais ce que je veux. Non mais moi, non, non, j'ai. Moi, je ne veux rien. Hein. J'ai du mal à vouloir. Je peux m'allonger, si vous voulez. Non, mais ça m'a jamais trotté. Je trouve ça. Je suis tellement dure que je passerai un mauvais quart d'heure, je pense.
On va passer de quelqu'un de dur à quelqu'un de mou, mais tellement mou partout sur son corps. Voici Daniel Morin. Flasque, j'aurais pu dire.
Je suis dégoûté.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Hier, la super cagnotte de l'euro million a été gagnée. Et pas par moi.
Mais t'as pas joué?
Putain, si. Je comptais dessus pour préparer ma retraite. 190 millions d'euros, ça aide pour passer des vieux jours tranquilles. Hein. En plus, ouais, c'est un Anglais. Un Anglais qui a gagné un Villarance Beef. Ouais, ça, c'est bien les Anglais, ça. Hop, 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 vite fait, je te prends 190 millions à l'Europe avant le Brexit. Voilà. Pas con les gars. Je suis dégoûté, un Anglais. C'est moche, les Anglais. C'est moche et ça sent fort. Ils méritent pas 190 millions. Moi, j'avais prévu plein de trucs. Déjà, un bon divorce. Ah ben, quand t'as 190 millions, t'as besoin de temps libre hein, pour dépenser. Et quand t'es en couple, t'es encombré, t'es jamais d'accord sur comment dépenser quoi, ça te ralentit. Faut pas croire, mais c'est pas facile à tenir la cadence pour dépenser tout ça. Avec 190 millions d'euros pour tenir la cadence sur 20 ans, tu dois dépenser plus de 26 000 euros par jour. 26 000 par jour, tous les jours, pendant 20 ans. On est à un niveau de consommateur de très très haut niveau. Une femme, ça te ralentit, je suis désolé. Et puis je suis sûr qu'avec 190 millions... J'avais un côté hyper charmant qui se développait, tu vois. Et je voulais priver personne de mon nouveau potentiel. Ouais, attention, je veux pas qu'on croie non plus hein, que je suis dans une logique égoïste. Hein. Oui, je me serais fait plaisir, c'est sûr. Mais pas que. Tenez, alors, C'est un peu gênant parce qu'il est là, mais j'avais prévu de faire opérer Guillermo. Guillermo ici présent, j'avais déjà pris rendez-vous chez l'ébéniste pour qu'on lui fasse une nouvelle bouche en bois. Un truc imputrescible avec des charnières en acier anti-rouille, un truc qui lui permette d'articuler, qu'on comprenne enfin ce qu'il raconte le bon gars. Hein. Si, parce que si ça se trouve, c'est drôle ce qu'il dit hein, pendant sa chronique. Si ça se trouve, le problème c'est qu'on comprend pas. Après l'opération, avec sa nouvelle bouche en tech, il aurait été impeccable. Bon bref, tout ça pour dire que moi j'en aurais fait un excellent usage de cette cagnotte à 190 millions d'euros. Alors sinon, pour parler d'un sujet beaucoup, mais beaucoup plus grave, vous avez tous entendu l'appel du président Macron. Il faut tuer, il faut lutter contre l'hydre islamiste. Qu'on soit vigilant. Et si par hasard, on remarque un comportement suspect dans la rue, chez son voisin, au travail, dans l'école de ses enfants, bref, partout, eh bien, qu'on n'hésite pas à le signaler. Ça entraînera des petites vérifications, et s'il n'y a aucun danger, tant mieux, mais s'il y a danger potentiel, ben on aura rendu service à la France. Du coup, j'ai été vigilant et en fin de journée, ben quoi, j'ai fait mon devoir de citoyen. Allô, commissaire. Oui, je m'appelle Daniel Morin, je travaille à France Inter et je voulais vous signaler deux petits trucs qui me tracassent par rapport à l'hydre du président Macron. C'est trois fois rien, mais quand même. Hein. Alors voilà, j'ai une collègue, je tairai son nom parce que je suis quand même pas un salaud collabo, mais voilà, quand Leïla se mouche, elle garde très très longtemps son mouchoir sur le nez et sur la bouche comme si elle faisait du prosélytisme pour le port du voile intégral. Je sais pas, est-ce un signe? Faut-il se méfier? Je tenais juste à vous tenir informé. Comment? Non, c'est sûrement que cette personne est propre et qu'elle veut s'assurer que tout va bien avant de jeter son mouchoir. Oui, oui, pourquoi pas, vous avez peut-être raison. C'est peut-être juste ça. Oh, non, 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 commissaire, non, non, je ne vois pas le mal partout. Ne faites pas de raccourcis faciles, s'il vous plaît. Surtout que la personne dont je parle, eh bien, elle est très proche d'un autre personnage du showbiz aux origines... enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et puis, on se rappelle tous des propos visionnaires de Brice Hortefeux. Quand il y en a un, ça va. C'est quand ils sont plusieurs que commencent les problèmes. Ouais. En plus, lui a des moyens financiers illimités. Pas besoin de jouer à l'euro million. Hein. Il est très capable de se faire une ceinture d'explosifs chez Chanel ou chez Gucci. Comment ça, commissaire, je dis n'importe quoi? Mais enfin, comment vous savez que je dis n'importe quoi? Ah ben, faudrait savoir, hein. On lutte contre l'hydre ou pas? Merde à la fin, si on peut plus être patriote, où va-t-on? Alors oui, oui, Nagui, c'est de la base délation ce que je fais, mais en même temps, faut me comprendre, je vis une période très très sombre.
Ah bon?
Hier, j'ai quand même perdu 190 000 euros. Merci. France Inter, la bande originale,
avec Nagui. Leïla, qu'est-ce que tu as retenu de la série, Alexandra Ravel d'ailleurs, et de cette rencontre avec Julie Depardieu et Thomas Védébé?
J'ai envie de voir la suite, le couple, le duo, parce
ouais,
que
aussi,
les dernières
vrai.
Minutes de l'hermaphrodite me...
Ça tisse
voilà,
bien.
Ouais, ouais. Ouais.
Daniel Morin?
Ben moi, Thomas Védébé, hermaphrodite.
Non,
je le savais, et je suis content que voilà, maintenant tout le monde sera au courant et la vérité sera rétablie.
Tom Villard, la réalisation, Nicolas Guichetot, qui est sympathique. Voilà.
Fayot. Ouais. Tanguy Massureau.
Ben j'ai retenu qu'on peut être invité à une émission de la bande originale en jouant seulement une minute à la fin d'une série. J'ai un petit neveu qui s'appelle Kevin Pastureau, voilà, et qui a tourné dans le Miel Elisabeth il y a 35 ans et qui est vrai, bah, aujourd'hui.
Guillermo.
J'ai dit la même chose que Tanguy.
C'est un très bel espoir pour des gens comme nous.
Il faut vraiment l'acheter cette bouche.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Julie, que l'on dise d'Alexandra, elle, de cette série? On dise, j'ai aimé la manière dont l'enquête était faite, j'ai aimé le naturel, l'humeur.
Comme la dame a dit,
Log.
Voilà, que c'est des gens aussi qui ont une vie et qui peuvent avoir un peu d'humour, même s'il faut un métier compliqué. Tout simplement.
Thomas, vous attendez quoi de cette nouvelle aventure dans votre carrière?
Bah, moi, que les gens disent, j'ai vraiment trouvé ça hyper bien, mais alors la fin de l'hermaphrodite. moi, on va retourner ce mois-ci à Bordeaux avec.
On va entrer dans le vif.
On va tourner ensemble, en fait.
Voilà, avec
c'est toujours à Bordeaux que ça
toujours
se
tourne. Toujours à Bordeaux.
Est-ce que dans ces cas-là, pour préparer, vous faites des lectures avant, vous faites des italiennes à Paris, dans des salles de répétition?
On en fait pas une du petite, tout. Mais des fois non, hein, on fait tout sur place.
Des fois non.
Non, on l'a pas fait.
Bah on va, comme je dis, on n'a pas encore tourné ensemble, on va tourner ensemble là, donc c'est sûrement au programme. Oui.
Très bien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oula, désolé pour Sud Radio, Public, Voici, ou encore Ici Paris, vos amis, Nagui, les journalistes qui ont titré que Julie Depardieu avait honte de son père, dont le professionnalisme a été pointé du doigt par Nagui. Alors c'est vrai, il a tort. En tant que putaclic, vous êtes des bons, vous êtes des très bons.
Putaclic.
Dis le mot. Je ne veux pas dire ce mot.
Et en même temps,
bouche en bois.
Bouche en
tech. Moi aussi, je vais m'acheter du tech. Désolé pour Isabelle Carrick, découvert que malgré les conseils de Julie Depardieu, elle n'a jamais été appelée pour jouer Mémoire de deux jeunes mariés. Franchement, sale famille que le showbiz. Désolé enfin pour tous les migrants qui nous écoutent et qui ne se sont pas sentis soutenus, respectés par Nagui et Thomas VDB. C'est vrai que c'est moche, mais en même temps, comme vous ne comptez pas niveau audience, on n'en a rien à foutre de vous. Ah, c'est atroce, mais au moins moi, je suis honnête.
Quelle horreur. Merci beaucoup et bravo. Merci Julie Depardieu. Merci Thomas VDB. Bonne route pour cette série Alexandra L sur France 3 dès la semaine prochaine pour le nouvel épisode avec Thomas VDB. Et puis à suivre pour les épisodes puisque elle est promise à une longue carrière avec autant de téléspectateurs. C'est très régulier. C'est systématiquement 4 millions.
Mais oui,
c'est vrai.
Mais je vous dis, j'ai pas accès à tout ça. Moi, je suis.
Ouais.
Non, mais parce que vous êtes dedans depuis longtemps. Donc on vous a battu. Mais je suis ravie.
Et ça porte bonheur.
Je suis désolée.
Mais je suis ravi pour vous.
Ouais.
Demain, c'est Hubert Reeves qui sera notre invité. Nous parlerons de son parcours, de son chemin, mais également de ses combats. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Oui, Bonne journée.
Et vous allez parler des trous noirs.
Exactement.
Et des croisades.
Exactement.
Bravo.
Bonne émission. Salut.